Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi 5 juillet. Nous reviendrons sur le deuxième tour des élections législatives, deuxième tour prévu dimanche, avec de nombreuses incertitudes dans certaines circonscriptions qui pourraient passer au RN. Retour aux commandes opérationnelles de l'entreprise chez Boiron pour la famille éponyme. Des travaux au parking Saint-Georges cet été. Une fresque pour accueillir plus chaleureusement à l'accueil de jour Saint-André, explication avec la peintre muraliste Clara Pazuto que nous avons rencontrée. Une naissance rare en France, un rhinocéros blanc est né au Safari Park de Peaugres.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les candidats des 13 circonscriptions encore en jeu ont encore une journée pour convaincre avant le deuxième tour des législatives dimanche. Faisons le tour des circonscriptions. Dans la première, ce sera une triangulaire entre Anaïs Belouassa-Chérifi, arrivée en tête au premier tour avec 42,4%. Elle porte les couleurs du nouveau Front Populaire. Thomas Rudigoz, Renaissance, est arrivé second avec près de 30%. Laurent Mouton complétera l'affiche du deuxième tour. Le candidat RN avait recueilli 18% au premier tour. Dans la 2, le candidat écologiste investi par le nouveau Front Populaire, Boris Tavernier, devrait l'emporter sans difficulté après avoir manqué l'élection de très peu dès le premier tour. Il sera opposé à Loïc Terraine ensemble. Dans la 4, une triangulaire, Sandrine Runel, PS Front Populaire, 38% au premier tour, se retrouve face à Anne Bruniera, la sortante, Renaissance, 31%, et Yannick Chaumont, RN, 17,9% au premier tour. Dans la 5, Blandine Brocard, Renaissance, 32,2% au premier tour, face au socialiste Fabrice Matteucci, 26,4%, et Sacha Bitoum, RN, 25% au premier tour. Dans la 6e circonscription, à Villeurbanne, Gabriel Amar, Front Populaire, face à Jean-Paul Brett, l'ancien maire PS. Dans la 7, le sortant Alexandre Vincendet, ensemble, affrontera le candidat LFI à nouveau Front Populaire, Abdelkader Lamar, et le RN Cédric Pignal. Dans la 8e circonscription, le candidat Modem Dominique Desprats, arrivé 3e lors du premier tour, s'est retiré mardi soir. Jonathan Géry, candidat RN, arrivé en tête avec 33,5% des voix, sera opposé à Anne Rimbaud, candidate PS appartenant à la coalition du Nouveau Front Populaire, et à Nathalie Serre, candidate LR. Cette dernière, députée sortante, n'a pas souhaité se retirer. Dans la 9, encalade Patrick Louis, RN, reconquête LR face à Alexandre Portier, le sortant LR. Dans la 10, Thomas Guessiou, Renaissance, face à Cécile Patou, RN. Dans la 11e, Alexandre Humbert Dupalais, Union des droites, est arrivé en tête dimanche dernier avec 36,8% des voix. Il se retrouve face à Jean-Luc Fugy, ensemble Renaissance. Ce sera un duel dimanche. Le candidat arrivé 3e, Abdel Youssfi, du Parti communiste, s'était retiré. Dans la 12e, l'écologiste Lucie Gaillot Durand, candidate du Front Populaire, était arrivée en tête au premier tour avec 30% devant le député sortant Cyril Isaac-Sibille, ensemble 29%, et la candidate du Rassemblement National, Clémence Luizier, 24,5%. Ce sera donc une triangulaire dans cette 12e circonscription. Dans la 13, le RN va tenter sa chance avec Tiffany Joncourt, la responsable départementale du parti, face à Victor Prant, candidat LFI. Idir Boumerti, LFI Front Populaire, sera opposé à Cédric Mermet, RN, dans la 14e. Les bureaux de vote dimanche ouvriront à 8h pour refermer pour la plupart à 18h jusqu'à 20h à Lyon et Villeurbanne. 10 conseils de quartier vont voir le jour à Oulin-Pierre-Bénite. Ils seront répartis sur le territoire de la commune nouvelle. Leur mission, favoriser la concertation entre habitants et municipalités, recueillir les avis des habitants sur les projets et problématiques locales, mais aussi participer à l'élaboration et au suivi des projets municipaux et même proposer des projets qui pourraient être financés par la ville. Un budget leur sera alloué, promet la municipalité. L'activité de ces conseils de quartier doit démarrer en septembre.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Chez Boiron, retour aux commandes opérationnelles de l'entreprise de la famille. Directrice générale depuis 5 ans, Valérie Laurence Poinceau quitte l'entreprise et c'est Thierry Boiron qui lui succède. Valérie Poinceau avait intégré Boiron en 2000. Elle démissionne également de son mandat d'administratrice. À la tête de Boiron depuis 2019, elle avait dû faire face au déremboursement de l'homéopathie par la Sécurité sociale. L'entreprise a dû entamer un processus de diversification. Annabelle Florie Boiron prend la présidence de Boiron SA, fille de Christian Boiron. Annabelle Florie Fleury-Boiron représente la troisième génération à la tête de l'entreprise familiale. À Lyon Parc Auto, LPA procède à des rénovations de parking régulièrement, notamment l'été, après celui du Gros Caillou en 2023. C'est autour de Saint-Georges, place Benoît Crépu. Ce parking abrite un peu plus de 700 places de stationnement, dont 10 PMR, 73 places vélo, 65 motos, une station Cities et des bornes de recharge électriques. Le parking Saint-Georges restera fermé du 8 juillet au 1er septembre pour permettre la rénovation des rampes et hélices d'entrée et de sortie et des espaces piétons. Du 1er septembre au 7 octobre, la fermeture sera partielle au niveau moins 1 et moins 2, privant d'accessibilité les vélos, motos, PMR et la station Cities.
Lyon demain, créateur d'envie.
Une fresque pour accueillir plus chaleureusement. L'église Saint-André abrite depuis quelques années un accueil de jour géré par le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Ce havre de paix et de chaleur se situe dans le sous-sol du lieu de culte, mais jusque-là à l'entrée, quelques marches d'escalier protégées par une paroi métallique n'étaient pas très engageantes. Avec l'aide de la Fondation Saint-Irénée, le foyer a fait appel à une peintre muraliste pour rendre l'endroit plus sympathique. Résultat, une fresque colorée qui invite à venir découvrir ce lieu apaisant. Nous avons rencontré l'artiste Clara. Pas du tout.
Dans mon quotidien, je peins des murs. Alors pour des clients particuliers, parfois c'est les mairies, les écoles, les hôpitaux. Tout dépend des projets. Et en gros, je m'adapte à un public bien précis pour créer des fresques monumentales ou sur des plus petites surfaces. Ça dépend des endroits. L'idée, c'est... Alors, il y a plusieurs formes de fresques. Mais alors moi, je suis très attachée aux fresques identitaires, ce que j'appelle comme ça. En gros, c'est la fresque qui va représenter ce qui se passe dans un endroit. Donc ça peut être pour rappeler le passé, pour parler des... ce que les gens vivent sur place, parler des habitants, tout dépend de chaque projet, mais je suis très attachée à aller rencontrer les personnes qui vivent dans un quartier ou quoi, et puis travailler avec eux un projet de fresque, vu que c'est leur mur, quoi.
Travailler avec eux, oui, c'est-à-dire c'est un temps un petit peu en immersion dans le quartier, pendant combien de temps, comment ça se passe?
Alors là, ce quartier, c'est un quartier qui me tient forcément à cœur, vu que c'est mon quartier de vie depuis 10 ans, et alors c'est avec grand plaisir que je connaissais déjà un petit peu tout le monde, etc. Au bout de beaucoup de discussions avec les habitants, etc., on a réussi à créer du lien, aller se retrouver les soirs pour discuter de l'actualité, de ce qui se passait au foyer, etc. Et oui, voilà, donc ça y est, les habitants connaissent ce lieu et voilà, ont vécu quelque chose aussi dans cette rue. Et ça, c'est, comment dire, c'est extrêmement enrichissant, en tout cas pour moi en tant qu'artiste, que de pouvoir faire du lien social aussi, grâce à la peinture.
Un endroit qui n'était pas facile, avec une porte qui était un peu dérobée, là, au pied d'une église.
Alors non, oui, en effet, ouais, c'était un endroit pas facile. C'est un petit mur pour moi. J'ai l'habitude de peindre des choses assez grandes sur échafaudage et tout. Là, j'étais au pied du mur, quoi. Donc dans la rue. Et ça m'a beaucoup plu aussi. Sauf que avec un peu de recul, je rajouterais peut-être 3-4 jours parce qu'il y a tellement de discussions. J'ai été tellement prise, hein, tout un tas de discussions. Il fallait tout le temps se retourner. J'ai trouvé ça merveilleux. Juste niveau concentration, c'est bien plus dur que sur un échafaudage quand on sait ce qu'on a à faire. Et... Alors cette fresque, elle parle des femmes. Du coup, des femmes qui viennent passer du temps dans l'accueil Saint-André. J'ai voulu représenter ce qui se passait en intérieur, à l'extérieur, pour parler de ce lieu, montrer les symboles qui réunissent ces femmes, mettre un titre, bientôt il y aura aussi les horaires, etc. Du coup, cette fresque parle de ces trois femmes, du coup, diverses, et puis tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire qu'on peut venir faire son linge, prendre une petite collation, il y a aussi des espaces pour les enfants, des jeux, etc. Donc voilà, ça me tenait à cœur de parler de ce lieu et de montrer comment on pouvait être serein ici et dans la bienveillance en tout cas.
Au-delà du côté esthétique, l'idée c'est de faire en sorte que les gens viennent aussi plus facilement dans cet accueil de jour.
Oui, bien évidemment, qu'ils soient visibles de la rue déjà, parce que c'est facile de dire venez à l'accueil, il se trouve ici, mais quand il y a une fresque qui le représente, honnêtement ça change tout. J'ai même vu cette évolution sur le chantier où les premiers jours j'orientais des femmes et petit à petit elles connaissaient très bien l'entrée, visuellement en tout cas ça parlait déjà bien plus.
D'autres fresques que tu as réalisées?
Je travaille à mon compte et je travaille aussi pour des entreprises, ça dépend des projets. Dans cette rue, j'ai réalisé une autre fresque aussi pour une boulangerie, du coup. Et là, ça parlait d'enfants, de bleu, de paysages, ce qu'ont envie de voir les gens, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait une grande peinture murale, un trompe-l'œil, du coup, cette fois-ci, sur une cité ouvrière qui se trouve à Roussillon. Et c'est une cité ouvrière où vit ma grand-mère. Et du coup, voilà, j'ai monté un super projet avec ma grand-mère pour parler des ouvriers qui vivaient dans cette cité. Et voilà, ça a été mon premier grand chantier et une grande réussite. J'ai été ravie.
Tes fresques, elles peuvent mesurer combien ?
Eh bien, j'ai déjà été sur des chantiers pouvant atteindre bien 25 mètres. Donc, ça dépend. Ça dépend vraiment. Je travaille aussi beaucoup avec l'entreprise Cité Création qui s'occupe de l'habitat social. Donc, on peint des murs dans des cités, dans de l'habitat social, etc. pour remettre un petit peu aussi de dignité parmi tous ces lieux et de faire que les habitants se sentent le mieux possible chez eux.
L'ADN de Cité Création, c'est effectivement de ne pas venir avec un projet, mais c'est de le construire, de le co-construire.
Tout à fait. C'est ce qui me fait continuer ce métier, en tout cas, bien évidemment. C'est de participer, de rencontrer les gens, de vraiment peindre ce qu'ils ont envie, car c'est leur mur, ça leur appartient. On est juste là pour venir faire du lien et puis faire du beau, parce qu'en fait, on a aussi besoin de voir de belles choses pour se sentir bien. Et voilà, c'est vraiment des projets qui ramènent énormément de personnes et ça paraît rien en soi de peindre des murs. Mais honnêtement, ça fait un bien fou à beaucoup de monde et je suis très heureuse de ça.
Dans ce quartier de la Guillotière, c'est quelque chose qui peut se développer ?
Eh bien, en effet, à la Guillotière, il y a déjà quelques peintures. Il y a des peintures aussi un petit peu sauvages, donc des peintures de rue, etc., avec des cadrages particulier. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'art dans ce quartier et c'est une bonne dynamique et à mon avis, il faudrait continuer, peut-être pas en mettre partout non plus, mais il y a des endroits en tout cas comme un accueil de jour où en effet, ça vaut vraiment le coup qu'il y ait de la fresque.
Votre plus beau projet, celui auquel vous tenez le plus ?
Celui de l'accueil de jour Saint-André a été vraiment merveilleux. J'ai passé des journées super entourées de femmes exceptionnelles, bénévoles. Alors elles m'ont aidée à la préparation du mur énormément, à faire validé tout ça par la mairie, etc. Elles sont occupées de vraiment tout l'aspect administratif. Et au quotidien, eh bien, il y avait toujours quelqu'un là pour moi pour venir m'ouvrir, me servir des cafés, venir donner un petit coup de renfort quand je me prenais des averses sur la tête. Donc oui, ouais, les femmes étaient toujours disponibles et j'ai trouvé ça merveilleux.
C'est quoi ton parcours pour arriver à ce métier ?
J'ai fait une école qui s'appelle École Cité, du coup, qui est une école qui a été ouverte par Cité Création pour former des nouveaux peintres. Et en gros, j'ai fait 3 ans d'école là-bas, à École Cité. Et suite à ça, je me suis lancée en indépendante dans la peinture murale et ça fait 5 ans que c'est mon métier. Alors mes projets, c'est par la suite de me former à la fresque, mais alors la fresque naturelle, en utilisant des pigments naturels et non de l'acrylique, car je suis un petit peu fatiguée de l'acrylique, c'est des produits qui usent aussi beaucoup la santé et tout ça. Et ce qui fait que moi j'ai envie de passer aux enduits naturels, tout en faisant de la fresque à fresco, du coup, c'est-à-dire dans l'enduit naturel. Et voilà, je me forme à ça l'année prochaine.
Clara Pazuto, peintre muraliste à l'origine de plusieurs fresques identitaires à Lyon. Son travail est à découvrir sur Instagram. Les Festifuries de Saint-Clément-les-Places fêtent leur 5e édition aujourd'hui et demain, tous les 2 ans depuis 2015. Des fanfares de toute la France et même d'Europe viennent mettre l'ambiance le temps d'un week-end dans cette petite commune. Cette année, 14 fanfares vont rythmer la vie du village, complètement fermée pour l'occasion. 250 musiciens seront accueillis ce soir. La diversité musicale sera de mise, bien qu'il s'agisse de fanfares. On parle de techno ou encore de métal en passant par de la pop. Il y en aura pour tous les goûts, promettent les organisateurs. Un très rare rhinocéros blanc a vu le jour au Safari Park de Peaugres. C'est la première naissance d'un rhinocéros blanc cette année dans un parc animalier français. Cette espèce est en voie d'extinction. La reproduction en parc est compliquée, mais c'est quand même la 7e fois qu'une naissance de cette espèce est enregistrée à Peaugres.
Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon Demain.
Moussa Niakate s'est engagé jusqu'en 2028 à l'Olympique Lyonnais, devenant la recrue la plus chère de l'OL. Près de 32 millions d'euros de transfert. Il avait encore 2 ans de contrat avec Nottingham Forest. Officiellement nommé le 19 juin pour remplacer Sonia Bonpasteur, partie à Chelsea, Joe Montemuro a pris officiellement ses fonctions hier à Décines comme entraîneur de l'OL féminin. Premier coach étranger de l'histoire du club, cet Australien âgé de 54 ans sort d'une expérience de 3 ans à la tête des féminines de la Juve. Il a signé un contrat de 2 ans avec l'OL féminin. 23 années de carrière, dont 9 à l'ASVEL en cumulé. Edwin Jackson, qui avait fait son retour au club, prolonge à l'ASVEL. L'arrière de 34 ans bénéficiait d'une année supplémentaire en option. Il repart pour une 9e saison en cumulé sous le maillot de son club formateur, Villeurbanne. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr lundi pour une prochaine édition. Passez un excellent week-end et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Yeah.